les accords d'Évian sont censés mettre fin à la guerre. En réalité, la guerre s'est prolongée bien au-delà des accords d'Évian, notamment parce qu'ils n'ont pas été appliqués et par les enlèvements massifs d'Européens qui se sont produits après mars 62, enlèvements organisés par le FLN, par l'action de l'OAS par ailleurs. Des militaires français ont également été tués après mars 62. Donc les accords d'Évian et le cessez-le-feu du 19 mars ne mettent pas fin à la guerre d'Algérie, celle-ci se prolonge jusqu'à la fin de l'année 62 en réalité.
Que prévoyait-il initialement ces accords d'Évian ?
Sur le fond, l'indépendance de l'Algérie qui doit être ratifiée par référendum, plus un ensemble de dispositions qui tiennent essentiellement, d'une part, aux frontières de l'Algérie, qui sont celles de l'Algérie française, incluant donc le Sahara, qui prévoit également des dispositions particulières pour protéger les intérêts et la place des Français d'Algérie dans l'Algérie indépendante, et qui prévoit également la coopération économique, technique, entre, d'une part, la France et le nouvel État algérien. Et puis, qui prévoit également des mesures d'amnistie pour toutes les personnes qui ont mené des actions pendant la période de la guerre.
Qu'est-ce qui a fait échouer la mise en place de ces accords ?
Premièrement, lors du congrès de Tripoli qui se réunit en juin 62, le congrès du FLN, les accords d'Évian, leur nature est déclarée néocolonialiste. On dit que les accords d'Évian constituent une plateforme néocolonialiste que la France donc s'apprête à utiliser pour maintenir sous une nouvelle forme sa domination. Deuxième élément, c'est que ces accords d'Évian reposaient sur le maintien d'une présence française nombreuse, puisque les Français jouaient un rôle majeur au plan économique, culturel, intellectuel en Algérie. Or, même chose, entre mars et juillet 62, toute une série de mesures, notamment donc ces enlèvements de civils européens perpétrés par le FLN, ont contribué à vider l'Algérie de sa population européenne. Et donc, ça rendait caduque une partie des accords d'Évian. Et au fond, ce qu'on constate ensuite, à partir du moment où l'Algérie devient indépendante, que l'exécutif provisoire, puis le premier gouvernement présidé par Ben Bella, s'attache à garder ce qui les intéresse des accords d'Évian et à fouler au pied, au contraire, toutes les dispositions qui leur paraissent contraires à leurs intérêts.
Qui étaient ces Européens qui ont été obligés d'abandonner l'Algérie à l'indépendance ?
À la veille de la guerre d'Algérie, donc en 1954, il y a un petit peu plus d'un million d'Européens. Pour la plupart, ce sont des petites gens, ce sont des citadins. Hein. Ils vivent essentiellement à Alger, à Oran, dans une moindre mesure à Constantine. Et ce sont des salariés, ouvriers, petits employés, des petits artisans, des commerçants. L'image des colons et des gros colons est une image fausse. Il y avait un peu plus de 22 000 exploitations agricoles européennes, ce qui représente moins de 10% de la population active des Français d'Algérie. Et la plupart de ces exploitations agricoles, d'ailleurs, sont des exploitations modestes. Les gros colons, comme on en parle, ne représentent que quelques dizaines de familles. D'autre part, il y a également de la grande propriété, d'ailleurs, algérienne musulmane à côté de ces gros colons européens. Donc ce sont des gens tout à fait modestes qui sont nés en Algérie pour plus de 80% d'entre eux, dont les parents sont également nés en Algérie, voire des grands-parents. Donc, j'ai envie de dire, ce sont eux aussi des Algériens. Ce ne sont pas des occupants. Ce sont vraiment des gens qui sont nés sur place, qui aiment profondément l'Algérie, qui voudraient bien y rester. Mais le FLN a créé toutes les conditions pour précipiter le départ de ces Français d'Algérie qu'ils ne souhaitaient pas voir rester sur place.